Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau radio organisé par l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie avec le soutien de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité d'Occitanie. Ici même, donc, ce plateau, cette interview, ce débat se déroule dans les locaux de RCF Lozère, animé à mes côtés par Ludovic Terrol. Ludovic, bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Vous êtes journaliste pour 48FM. Également à mes côtés, Nathalie Maury. Nathalie, bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour Radio Margeride. Nous allons aujourd'hui évoquer la question de l'égalité homme-femme, que ce soit en politique, au lycée, dans le sport, dans divers domaines, vous allez le voir, en milieu rural, avec autour de cette table, tout d'abord Sophie Pantel. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du conseil départemental de la Lozère. À vos côtés, Jean-Michel Poirson, vous êtes le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Valérie Lucas aussi et Christine Chapelle, respectivement directrice et présidente du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Madame Liliane Domergue. Bonjour Madame Domergue.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de la Lozère. Et puis pour terminer, nous avons une lycéenne. Il s'agit de Perline Lafou-Daudet. Bonjour Perline.
Bonjour.
Vous êtes lycéenne où ?
Au lycée Notre-Dame.
Au lycée Notre-Dame à Mende. Merci d'être avec nous, Perline. Nous commençons donc ce débat. Ludovic, vous donnez la parole à Sophie Pantel.
Oui, Sophie Pantel, on va tout d'abord évoquer l'égalité homme-femme dans le milieu politique et également au sein du département de la Lozère. Donc vous, Sophie Pantel, vous évoluez dans un milieu qui est plutôt masculin. Alors je vais donner quelques chiffres nationaux. Lors des dernières élections législatives, seulement 39,17% de femmes sont devenues députées. Pour les sénatoriales, ce chiffre descend à 31,79%. Au gouvernement, on est à 50%, mais peut-être avec des ministères qui sont moins importants, on va en discuter. Au niveau de l'Assemblée nationale, sur 12 présidences de commission, les femmes en ont 5, seulement 4 pour les délégations sénatoriales, toujours sur 12. Des femmes qui restent sous-représentées dans la vie politique. Alors, Sophie Pantel, j'aimerais avoir votre avis sur cela. Comment expliquer peut-être cette sous-représentation, même s'il y a du mieux, cette difficulté pour les femmes à entrer dans la vie politique ?
Eh bien, bon, d'abord, rappeler que si on a réussi à progresser, c'est grâce à un certain nombre de textes législatifs. Donc, à partir des années 1999 jusqu'à la dernière loi de 2013, donc, qui a permis, notamment au sein des conseils départementaux, d'avoir la parité. Alors après, sur la question pourquoi c'est si difficile, je pense que le monde politique a toujours été un univers masculin, où finalement, assez symbolique des représentations que peuvent avoir les hommes et les femmes sur leur place dans la société. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que même lorsque les femmes accèdent au pouvoir, elles se retrouvent souvent cantonnées dans des délégations ou des dossiers qui relèvent finalement de près à ce qu'on appelle la sphère privée, c'est-à-dire souvent à la famille, elle s'occupe des crèches, elle s'occupe de l'enseignement. Voilà, donc on va retrouver de la même manière, même au poste de responsabilité, ces différentes représentations. Et puis peut-être que on n'a pas souvent dit aux femmes qu'elles étaient aussi compétentes que les hommes. Il y a peut-être un manque de confiance. Et en tout cas, une ambition qui est souvent reprochée lorsque les femmes accèdent à des postes comme ça de responsabilité ou de pouvoir. Voilà, je pense que c'est un peu tout ça. Et puis, globalement, même s'il y a une progression dans le partage des tâches familiales, la question du souci de l'organisation de la vie de la famille, je pense que ça reste quand même essentiellement sur les épaules des femmes. Et tant qu'on n'arrivera pas à modifier cette répartition à la maison, ça ne permettra pas aux femmes de pouvoir se libérer pour finalement s'investir aussi en politique. Et peut-être... Dernière explication, mais c'est la question du statut de l'élu qui n'existe pas. Et souvent, quand on regarde sur la question professionnelle, les femmes sont souvent sur des métiers qui sont moins rémunérateurs, ou en tout cas sur des postes sur lesquels il est plus difficile de pouvoir se libérer. Donc moi, je plaide depuis des années pour qu'on ait un vrai statut de l'élu et qu'on ne soit pas obligé de continuer à la fois garder un emploi et ne pas être forcément sûr de pouvoir après le retrouver si on le laisse pour se consacrer entièrement à la vie politique. Donc voilà, je pense que cette question du statut, et c'est valable aussi pour les hommes et pour certaines professions, si on arrivait à le régler, ça permettrait à la fois aux femmes mais aussi aux hommes de pouvoir beaucoup plus investir et d'être beaucoup plus représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui. Voilà, puisque moi, si je prends le cas des assemblées que j'ai connues au département, on avait souvent beaucoup de fonctionnaires parce qu'il y a des régimes d'autorisation ou de crédit d'heure qui peuvent être facilement mobilisables. On a souvent des professions libérales, et des professions libérales quand ils ont un peu assis leur activité professionnelle, qui peuvent libérer un peu de temps. Et il manque souvent tout un pan de la société.
Avec humilité, on va essayer d'apporter des réponses, voire des solutions. Donc ça peut en être une, ce statut de l'élu, réellement.
Moi, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous engagez, soit vous arrivez à concilier activité professionnelle et mandat, et ça se fait souvent au détriment de sa vie familiale ou de certains autres engagements ou simplement au détriment du sport ou de loisirs que l'on peut aimer faire. Si vous n'arrivez pas à concilier, vous n'êtes jamais assuré en fait de pouvoir retrouver votre poste, sauf à être fonctionnaire.
Christine Chapelle, Valérie Lucas, vous allez être un peu le fil rouge de cette émission. Les causes sont profondes, notamment aussi en politique, notamment au niveau de l'éducation, de se dire je peux pas passer le cap, arriver à avoir des fonctions dans la vie politique. C'est à chercher dans l'éducation, ça, Valérie ?
Effectivement, Sophie Pantel a parlé de confiance et de compétences. On peut penser que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes, mais que peut-être on les reconnaît moins dès le plus jeune âge sur leurs compétences à l'école, en primaire, où on va peut-être de manière inconsciente ou consciente, encourager des garçons sur certaines activités ou en mathématiques, etc., les soutenir. Et puis les filles, on va plutôt les encourager sur d'autres domaines. Donc ce qui fait que très tôt, les filles peuvent se freiner et manquer de confiance en elles. Et du coup, ça se retrouve dans les études, dans les métiers, l'accès aux responsabilités, aux instances sportives, la prise de responsabilité politique.
Perline, toi qui es lycéenne, tu as été confrontée à ces problèmes-là ?
Par exemple, moi je suis en terminale littéraire et l'année dernière on était 8 et on est 8 filles. Cette année il y a un garçon en plus, mais c'est vrai que c'est une majorité de filles et dans la série scientifique il y a beaucoup plus d'hommes. Enfin, je pense que c'est plus. Il y en a beaucoup plus. Et je pense que c'est forcément. Au niveau culturel, on a dû nous influencer, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on était à l'école primaire ou au collège, je me dis qu'il y a forcément une raison.
On parlait des délégations, Sophie Pantel, j'ai encore des chiffres, mais au niveau régional. Dans les délégations des exécutifs de 12 conseils régionaux en janvier 2016, alors la part des femmes monte à 100% pour la délégation affaires sociales, santé, on descend à 54,5% pour l'éducation et les lycées, 11,1% pour le budget et les finances et 8,3% pour les transports. C'est terrible ces chiffres.
Oui, mais ça illustre bien ce que je vous disais. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en Lozère, on est plutôt exemplaire. Donc évidemment, 50% de femmes dans l'Assemblée, puisque ça c'est la loi de 2013. Au niveau de l'exécutif, on est exactement à parité. Et quand on regarde les délégations que j'ai pu donner à mes collègues, par exemple sur le social, c'est un homme qui est président de la commission, c'est Francis Cortès. Et sur notre commission, alors développement économique, mais bon, vous savez qu'avec la loi NOTRe, on a enlevé le mot économie, mais on va dire développement, c'est Régine Bourgade qui en est la présidente. Donc on fait un petit peu contrepoids à ce que vous avez pu indiquer.
Mais finalement, il ne faut pas attendre qu'il y ait une femme en tant que présidente pour que les vice-présidences ou les présidences de délégation changent un peu ?
Bah, peut-être. En tout cas, c'était une volonté forte de ma part que l'on ne tombe pas justement dans ces stéréotypes que l'on retrouve dans d'autres assemblées, parce que je l'ai vécu aussi en étant dans l'opposition. J'ai connu quand même pendant un mandat une assemblée où j'étais la seule femme. Ensuite, Michel Manoa m'avait rejoint donc sur le renouvellement partiel suivant. Et puis, on a une troisième collègue qui était aussi arrivée au département, mais suite au décès du titulaire. Voilà. Donc, moi, j'ai connu l'Assemblée avec trois femmes. Et puis, aujourd'hui, avec la moitié.
Nathalie ?
Oui, Sophie Pantel, y a-t-il égalité ou inégalité de traitement au niveau des agents qui travaillent au conseil départemental ?
Ah ben... Je suis obligée de répondre à ça. Évidemment qu'il y a égalité de traitement. Bon, après, dans la fonction publique, vous savez, c'est pas compliqué puisque il y a des systèmes d'indices. Après, je pense que au-delà de tout ce qui est traitement et on va dire régime indemnitaire qui est parfaitement égalitaire. Après, ce qu'il faut regarder si on veut être vraiment juste quand on fait une photographie de où sont les femmes dans une assemblée ou dans une entreprise ou dans la fonction publique d'une manière générale, c'est est-ce qu'elles ont accès à la formation de la même manière que les hommes, ou est-ce que là aussi, quelque part, elles s'auto-censurent parce qu'il faut s'occuper de la maison et des enfants. Est-ce qu'on les retrouve investis aussi dans les syndicats ou dans les différentes instances de représentation. Voilà, enfin, je pense que les choses, on peut les retrouver plus nuancées sur ce type d'engagement, mais en tout cas, d'un point de vue réglementaire, il y a une parfaite égalité.
Alors, Sophie Pantel, j'ai appris que dernièrement, des femmes avaient été embauchées pour conduire les engins de déneigement.
Alors, ce n'est pas des femmes, c'est une femme. Et ça, c'est une volonté forte aussi que nous avons, mais qui est très difficile à mettre en œuvre, puisqu'en fait, on voudrait plus de mixité dans nos équipes techniques et des équipes qui étaient uniquement donc composées d'hommes jusqu'à présent. Et on a embauché donc une jeune femme sur le nord-ouest du département pour déneiger et faire les travaux routiers, donc que ce soit épareuse, enfin voilà, enduit, etc. Et honnêtement, on n'a que des bons retours. D'abord, elle est aussi compétente que les autres. Et puis, en plus, ça crée un climat apaisé au sein des équipes.
À compétence égale, en fait. Hein. Elle a la compétence d'un même poste. Hein.
Mais bien sûr.
Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle est embauchée.
Mais bien sûr, Jean-Claude. Je pense que personne n'en doute.
Nathalie.
Mais ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on va l'exclure.
Tout à fait.
J'ai compétence égale.
J'ai une autre question, justement, Valérie. On reste encore sur des métiers très sexués, finalement, en France. Il y a des métiers qui restent masculins, des métiers qui restent féminins. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas Florence Vignal qui devait venir ici, la présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat, pour parler de ça, notamment du CFA. Mais là, c'est un contre-exemple parfait. C'est vraiment intéressant.
Cette semaine, dans la Lozère Nouvelle, j'ai vu une offre d'emploi de couvreur. Alors, c'est une entreprise lozérienne qui cherche des couvreurs, hommes ou femmes. C'est quand même difficile, ce métier, pour une femme.
Bah, de toute façon, les annonces, les offres d'emploi doivent être offertes et pour les hommes et pour les femmes.
C'est une obligation.
C'est une obligation. On ne pourrait pas se contenter du terme couvreur sans ajouter de E.
Là, c'est homme ou femme, donc c'est H ou F.
Oui, mais c'est une obligation en fait en termes de publication des offres,
ce qui ne veut pas dire
d'emploi. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement on aura autant de femmes à se présenter à cette offre d'emploi que d'hommes, mais je pense que c'est dommage que Florence Vignal soit pas là pour répondre pour le CFA sur les filières, puisque nous n'avons pas CIDFF les nombres d'apprentis selon les filières offertes par le CFA. Mais pour répondre à votre question initiale, je crois qu'on a un peu plus de 80 familles professionnelles et les femmes sont présentes dans seulement 12 des familles professionnelles. Et ce cantonnant, en fait, ça reprend ce que disait Sophie Pantel sur l'attribution des commissions. Les femmes se retrouvant sur les métiers du soin, les métiers d'aide à la personne, et puis les hommes sur des filières plus techniques, ingénieurs, etc. Donc il y a forcément en fait une image induite des femmes peuvent être présentes dans tel métier mais ne peuvent pas être présentes dans tel autre métier. Je prendrai l'exemple d'un questionnaire puisque la semaine passée nous avons participé au Carrefour départemental de l'orientation Et le CIDFF, en fait, a distribué avec le soutien des BTS Tourisme du lycée Chaptal des questionnaires avec une vingtaine de questions. Et la question 7 était pensez-vous qu'il y a des métiers pour des métiers ou pour lesquels les femmes sont plus aptes et des métiers pour lesquels les hommes sont plus aptes, c'était oui ou non. Et la majorité des réponses a été oui, nous pensons que les femmes sont plus faites pour certains métiers et oui, nous pensons que les hommes sont plus faits pour certains métiers.
Perline, tu sais ce que tu veux faire plus tard comme métier? Tu as déjà une idée?
Non, je ne sais pas trop. L'année prochaine, j'aimerais partir en cagne-hypocagne. Mais après, je ne sais pas, comme métier, je ne sais pas.
Nathalie?
Oui, on revient avec le département qui finance divers partenaires et qui lutte pour l'égalité, on l'a compris, qui s'associe à diverses actions également. Je pense à la remise du prix de l'installation des femmes en agriculture, avec là aussi quelques chiffres pour notre département. En 2014, les femmes étaient au nombre de 7 à s'installer. En 2017, elles étaient 14. En majorité en société, c'est-à-dire avec un conjoint ou en famille, jamais seule. Et des a priori sur ce métier qui sont encore bien présents, on le sent. Et je fais référence aussi à l'accompagnement du mouvement français pour le planning familial et à l'initiative d'une expo sur les femmes aux archives. Vous pouvez nous parler un peu de ces partenariats et de ces actions?
Oui, bien sûr. Donc, d'abord, le prix de l'installation des femmes en agriculture, c'est pas le département qui l'organise, mais l'État. Donc, Monsieur Poisson pourra vous en dire un mot sur la politique de l'État. Nous, au niveau du département, on soutient essentiellement deux opérateurs, deux structures, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles, donc à la fois sur le champ des violences, mais aussi sur la question de la mixité et aussi tout le travail qui est fait sur les représentations, notamment envers les scolaires, donc et puis notamment pour les mineurs non accompagnés aussi, parce qu'ils arrivent souvent avec une culture qui est différente. Donc on vient de mettre en place un accompagnement avec le CIDFF. Et puis on accompagne, de la médiation familiale aussi, que j'oublie. Et on accompagne donc le planning familial sur aussi cette question de l'accès à la contraception, en tout cas sur l'information sur la vie personnelle et sexuelle donc des jeunes, et sur aussi des interventions scolaires sur le respect mutuel filles-garçons. Donc voilà, après pour le reste ça relève de la politique de l'État.
Ben justement, on va poser la question sur cette politique de l'État. L'égalité homme-femme, une grande cause nationale, voulue par le président de la République. Comment ça se décline au niveau national et notamment en Lozère?
Une très grande cause nationale, vous l'avez dit. Alors ça se décline pour nous en Lozère, effectivement. Alors il y a la question de l'accès aux différents types d'emplois, traditionnellement reconnus comme étant pour certains des métiers d'hommes ou des métiers de femmes. Je préférerais qu'on parle de métiers majoritairement occupés par des hommes ou majoritairement occupés par des femmes de nos jours. Mais ce sont aussi des actions qui sont conduites par nos collègues et pilotées depuis la région. Concrètement, ici, dans le département en Lozère, et pour ce qui est de la structure que je dirige, nous consacrons en étroit partenariat avec le CIDFF l'élimination des violences envers les femmes. Principalement, et c'est un sujet d'actualité puisque dans quelques jours nous célébrerons donc cette journée qui est la journée de l'ONU pour l'élimination de ces violences à l'égard des femmes.
On en parlera en fin d'émission.
Tout à fait.
Bien sûr.
Autre opération en ce qui concerne la Lozère? Non, pas particulièrement.
Non.
Sophie, vous, après on reviendra sur le CIDF avec Christine Chapelle qui nous dira un petit peu les actions du CIDF en Lozère, puisqu'il y a un CIDF, je suppose, dans chaque département. Sophie, vous avez baptisé l'un des bâtiments du conseil départemental Olympe de Gouges. Alors les Lozériens, peut-être tout le monde ne savait pas qui était Olympe de Gouges, vous allez nous dire qui était Olympe de Gouges, mais peut-être moi j'ai pensé pourquoi ne pas avoir choisi une personnalité lozérienne femme, puisque c'était votre choix. Il y a des femmes qui ont réussi, qui ont fait beaucoup de choses en Lozère.
Oui, alors ça a été de grandes discussions. Alors c'est vrai que le choix, c'était de choisir une femme, parce qu'en fait, vous regardez un peu les noms des différents bâtiments ou des salles de réunion, enfin, que l'on peut avoir sur le département. Il n'y en a quasiment pas, pour ne pas dire pas. Donc ça, c'était un choix qui était important et partagé par l'ensemble de la majorité. Ensuite, on a fait un tour de table et chacun a proposé des noms. Et en fait, on n'a jamais trouvé de consensus sur un nom de femme lozérienne, parce que soit Pour celles qui étaient décédées, il n'y avait pas de consensus. Et pour celles qui ne l'étaient pas, quelque part, c'était un peu compliqué parce que ça mettait en valeur soit une structure plus qu'une autre, soit une personne. Donc finalement, on a décidé d'être sur un champ plus historique. Et donc Olympe de Gouges qui a rédigé la déclaration des droits de la femme, puisque malgré évidemment tout ce qu'a pu apporter notre révolution française, quand vous regardez les textes, les femmes ont été quand même un peu oubliées à cette période-là. Et donc, je rappelle qu'Olympe de Gouges disait que si les femmes avaient le droit de monter à l'échafaud, elles devaient avoir le droit de monter à la tribune et de s'exprimer aussi. Voilà, donc c'était un symbole de pouvoir nommer donc notre nouveau bâtiment administratif Olympe de Gouges.
Et nous parlons donc de cette égalité avec Jean-Michel Poirson qui est à nos côtés. Vous êtes le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Alors c'est un sigle qui est un peu long. Quelles sont concrètement vos compétences ?
Alors justement, concrètement, et s'agissant en particulier du droit des femmes, nous allons principalement nous centrer sur leur protection, en fait leur droit à la sécurité, leur droit à la santé et leur droit à l'accompagnement social. En disant cela, notre principale action va tourner autour de l'élimination des violences faites aux femmes.
Alors quels sont vos outils ?
Alors quels sont nos outils ? L'État, cette politique publique, l'État la met en œuvre avec son principal partenaire, qu'est le CIDFF, en Lozère. Alors plusieurs outils concrets que le CIDFF pourra développer. Hein. Il s'agit tout d'abord de travailler sur la protection des femmes qui sont victimes de violences. Ne pas oublier d'ailleurs les enfants qui accompagnent les femmes et qui sont aussi des victimes de ces violences, souvent causées par des hommes et par des hommes qui leur sont proches, des hommes qui relèvent de leur sphère intime le plus souvent. C'est la prévention de ces violences, et là nous travaillons et notamment avec les plus jeunes et les étudiants sur la sensibilisation aux stéréotypes sexistes. Donc un travail dès le plus jeune âge. Et puis enfin, c'est aussi améliorer la connaissance des violences qui sont faites envers les femmes au niveau des professionnels, qu'il s'agisse des professionnels du département, des forces de l'ordre, de la gendarmerie et de la police, du planning familial ou des intervenants au niveau de la santé, de la PAS qui est mis en place par l'ARS par exemple. Donc voilà les trois principaux axes. On pourra développer plus précisément les outils concrètement mis en œuvre donc avec notre partenaire qui est le CIDFF. Pardon.
Alors parmi ces partenaires, vous nous l'avez dit, parmi ces outils, il y a le CIDFF, le centre. Donc vous allez nous l'expliquer, Christine. Christine Chapelle, vous êtes la présidente du CIDF.
Oui, voilà. Ben, écoutez, président du Centre d'information du droit des femmes et des familles. Voilà, donc le Centre d'information du droit des femmes et des familles a pour but quand même de favoriser effectivement l'égalité entre les hommes et les femmes et surtout d'amener les femmes qui viennent chez nous à une autonomie et à vraiment une prise en charge pour arriver à cette égalité. Alors c'est vrai qu'on a des salariés qui sont là, on a une juriste pour accompagner ces femmes dans leur accès aux droits. Dans le cadre des luttes contre les violences, on a une psychologue qui est là pour les soutenir. Enfin, elle est là. Ça a été mis en place au tout début pour ces femmes qui avaient rien sur le département et qui étaient victimes de violences. Donc, il a été mis en place cette action pour les aider à se reconstruire après des violences conjugales vécues difficiles. Puis on a un accueil de jour aussi pour ces femmes qui est à disposition avec une éducatrice qui les encadre en cas de besoin. Et puis on a un soutien à l'emploi et à l'insertion avec deux personnes qui amènent les femmes qui sont très très loin de l'emploi ou victimes. En fait, c'est tout un. Il y a une prise en charge globale de ces femmes victimes de violences qui arrivent au CIDFF pour les amener vraiment à l'autonomie et vers, oui, vers une autonomie. Voilà, une autonomie, parce que souvent elles sont sous un joug familial, le joug de leur conjoint, ou pas du tout formées pour l'emploi ou loin de l'emploi. Voilà. Et nous avons aussi un soutien à la parentalité avec la médiation familiale. Et puis on travaille, je crois, avec le département sur le schéma départemental de la parentalité. Et puis nous avons aussi une action auprès des jeunes au travers des interventions scolaires. Alors effectivement, on travaille avec les lycées, les collèges pour une sensibilisation. Et puis peut-être depuis cette année, on travaille aussi avec les primaires. Et je pense que si vraiment on veut arriver à sensibiliser et mettre en place cette égalité, je crois que ce serait de travailler aussi près de la petite enfance. Hein. Je crois que si on veut éviter de déconstruire ces stéréotypes, et bien de travailler tout de suite dès l'enfance, on arriverait peut-être plus vite à une réelle égalité. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais voilà.
Est-ce qu'on a des chiffres sur le département ? Par exemple, je vais parler de façon dramatique, mais je sais qu'en sur la région Occitanie, il y a 16 personnes qui sont décédées dans le cadre de violences de couple, dont 13 femmes et 3 hommes. C'était en 2016. Et il faut savoir que sur le 22 699 appels au 3919, ils émanaient de la région Occitanie. Et c'était des femmes donc, qui étaient victimes de violences. Et sur 22 699, il y en avait 1932 qui émanaient de la région. Est-ce que pour le département, on a des chiffres comme ça ?
Alors, écoutez, moi, quand je suis arrivée à la présidence du CIDFF, il y avait une femme. D'ailleurs, je crois que c'est le procureur qui était le procureur qui était venu au CIDFF et qui avait dit comme ça. Bah, écoutez, moi, quand je suis arrivée sur le département, j'ai eu un cas terrible d'une femme qui avait été tuée au rond de ma gueule. Et il avait dit d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de main courante. Toutes les dépôts de plaintes seront considérés parce que la violence, elle ne doit pas exister. Et moi, à ma connaissance, j'ai deux femmes qui sont mortes suite, une à Marvejols aussi, pendant mon mandat, qui sont mortes en Lozère. Après, sur les violences au niveau du CIDFF, je sais que l'année dernière, la psychologue a suivi pratiquement 100 femmes sur la Lozère, ce qui, pour le département, enfin, je crois qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience de la population sur ce qui se vit au sein du département. Et donc, c'est vrai que l'utilité du CIDFF a toute sa raison d'être, parce que, en fait, il y a beaucoup plus de situations comme ça qu'on ne le pense. Voilà. Ouais. Peut-être si Valérie veut développer un peu plus sur les violences ou les personnes.
Voilà, on va faire une troisième partie consacrée à ces violences et à cette journée de dimanche prochain. On va rester sur ce thème de l'égalité homme-femme pour finir cette partie. Monsieur Poisson, vous évoquiez la lutte contre les stéréotypes sexistes. Perline, toi qui es lycéenne, est-ce que tu as été confrontée à ces stéréotypes sexistes finalement dans ta vie d'étudiante ?
Je sais que par exemple au niveau de la tenue vestimentaire, si une fille s'habille en jupe ou en robe, même à notre époque, on va forcément recevoir des critiques ou des remarques. Toutes les filles, que ce soit ouvertement ou on le dit pas forcément à la personne, mais on entend les critiques, se font insulter ou voilà. Et après aussi au niveau des débats en classe, si on parle par exemple de l'inégalité homme-femme. Par exemple, du fait que les femmes soient moins embauchées parce qu'elles ont le risque de tomber enceinte. C'est les filles qui vont défendre ça. Il y a beaucoup de garçons, mais même de filles, qui vont rigoler, se moquer ou penser que c'est normal. Et après, même une fois qu'on a fini le cours, dire que la fille est féministe et voilà, enfin, se moquer d'elle, quoi.
Valérie, justement, vous intervenez en classe avec le CIDFF pour des actions de prévention. Quand vous intervenez en classe, est-ce que vous retrouvez un peu ces paroles de garçons-filles dans vos interventions, oui ?
Oui, effectivement. Bon, peut-être que Christine pourra reprendre la parole sur une idée où parfois on a l'impression qu'il y a un retour en arrière sur les représentations ou les comportements avec ce que dit Perline, en fait, hein, sur un débat parfois un peu conflictuel sur la place des femmes et des hommes. C'est des choses qu'en fait, nous, on travaille au niveau des interventions scolaires, en collège et en lycée. Nos interventions n'ont pas pour but de dire aux jeunes « faites comme ci » ou « faites comme ça », mais c'est surtout pour leur ouvrir la réflexion et puis le champ des possibles et dire que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas avoir un déroulement de carrière, rentrer dans une école d'ingénieur et puis se projeter professionnellement et puis voir après comment on peut poser sa vie familiale. Ou à l'inverse, c'est pas parce qu'on est un homme qu'à un moment donné on pourra pas interrompre sa carrière et puis prendre un congé parental comme c'est permis et du coup se consacrer à sa vie de famille pour que sa conjointe puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc effectivement, alors parfois les clichés sont plus présents dans certaines filières, des filières déjà où les personnes sont, on le voit avec tout ce qui est formation à la petite enfance ou service aux personnes, où là déjà on a des filières quasi exclusivement féminines voilà, il est déjà presque trop tard pour intervenir.
Madame Domergue, vous n'êtes pas exprimée jusqu'à présent, prenez le micro. Vous êtes la vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de la Lozère, le CDOS. Alors, vous venez d'entendre toutes ces réactions. Dans le sport, il y a une inégalité ?
Oui, bien sûr, il y a une inégalité, mais surtout dans les prises de responsabilité à la tête des associations et des comités départementaux. Il y a simplement 12% de femmes qui sont présidentes de comités départementaux. C'est au niveau national et en Lozère, c'est également la même chose. Que ce soit également sur, il y a une différence au niveau des personnes qui pratiquent et qui sont licenciées, puisqu'au niveau des licences, les statistiques disent que seulement 32% de femmes sont licenciées, 37,44% de femmes sont licenciées dans le sport. Et également des inégalités, que ce soit sur les compétitions, puisque 3 fois plus d'hommes pratiquent des compétitions par rapport aux femmes. Et c'est souvent dans beaucoup de domaines comme ça. Mais ce que je notais, c'est quand même qu'il y avait, tout comme dans le département, au niveau du comité départemental, je trouve que maintenant, les femmes qui prenaient des postes ont donné à la personne un poste de secrétaire plus facilement. La femme, c'est la secrétaire. Mais rarement, on lui proposait le poste de présidence ou de responsabilité. Mais maintenant, ça évolue et je suis très heureuse de constater cette évolution.
Concrètement, au niveau du sport réel, par exemple, les femmes ont accès à tous les sports. Le rugby, on voit qu'il y a des équipes.
Tout à fait, tout à fait. Les femmes maintenant, et ça, je trouve que c'est très bien. Je discutais récemment avec des personnes dans des milieux différents au niveau de la région et on était ravis de constater que les hommes maintenant étaient regardés plus vite, plus facilement un match de rugby féminin et un match de foot, alors qu'avant, à partir du moment où il y avait un match de femmes, on ne le regardait pas. Et en Lozère, il y a maintenant aussi des féminines qui évoluent au niveau départemental, surtout en foot. Et on le voit très bien au niveau des médias. Moi, je me plais à regarder régulièrement les résultats et de voir que donc des féminines évoluent et se plaisent et sont ravies d'être sur le terrain pour... pas égaliser, mais participer au sport qu'elles aiment.
Et pourtant, il y a un sport, le vélo, c'est souvent les hommes qui sont mis à l'honneur. On l'a vu cet été avec le Tour de France, il y a le Tour cycliste féminin et il n'est pas vraiment médiatisé. C'est sur des chaînes particulières, il faut être abonné pour pouvoir voir ce sport-là.
Tout à fait. Et au niveau des médias, justement, je regardais, je faisais un petit peu le parallèle, et sur du sport féminin, je crois qu'il y a simplement 7% du temps qui est pour le sport féminin, les médias n'utilisent que 7% de valeur de visualisation du sport féminin. Par rapport,
cela rapporte peut-être moins en publicité ou est-ce qu'on va jusque-là, quoi?
En tout cas, moi, je sais que je ferai tout pour défendre ce qui est pour le sport féminin. Ça fait partie d'une de mes convictions et je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de femmes qui s'investissent ou qui en donnent la possibilité.
Sophie Pantel, justement, parlait de vélo. Alors là, il y a une action que le conseil départemental soutient, c'est le tour féminin d'Ardèche.
Oui.
Ça fait trois ans que vous soutenez.
Quatre ans.
Ça. Ouais. On peut peut-être en dire un mot sur ce tour cycliste.
Oui, moi je rejoins ce que dit Liliane Domergue. C'est vrai que au niveau national, il y a une défaillance au niveau de la presse, au niveau de la télé, pour pouvoir parler du sport féminin. Après, en Lozère, c'est complètement différent. Moi, je regardais encore la dernière Lozère Nouvelle ou un certain nombre d'articles de vos confrères de Midi Libre où je trouve que vous mettez en avant aussi bien le sport féminin que le sport masculin et les résultats des uns et des autres. Donc, et ça, c'est important parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas quelque part. Donc, c'est vraiment important de pouvoir à chaque fois le montrer. On avait fait un article, nous, dans le magazine départemental Couleur Lozère, sur le foot, sur les équipes féminines. Alors, au début, on était parti sur quelques-unes qu'on avait tous en tête. Et en fait, quand Elodie Lenbach, notre directrice, a travaillé dessus, elle est arrivée à une liste bien plus longue que celle que l'on imaginait au départ. Et donc, je pense qu'on a quand même d'excellents résultats. Et c'est vrai que nous, c'est valable pour toutes les disciplines sportives, mais on essaye de soutenir à travers nos aides aux associations aussi bien tous les clubs et toutes les épreuves, que ce soit celles pour les hommes que pour les femmes. Et c'est vrai que le TFCIA, quand on a été sollicité par notamment Claude Tessier du Blémard et Jean-Paul Morin, on a répondu présent immédiatement. Et puis je sais qu'au niveau du Tour du Gévaudan, on en saura un peu plus samedi, mais Benoît Malaval réfléchit aussi à accueillir une nouvelle épreuve féminine sur le département.
Madame Domergue, parlez-nous du programme Le Sport au Féminin qui est travaillé ce projet par le CDOS de la Lozère.
Oui, un projet sport au féminin. Personnellement, moi, au niveau du CDOS, je suis responsable de la commission sport santé davantage. Mais là aussi, pour parler du CDOS, c'est quand même dommage. Je suis la seule femme membre du conseil d'administration, alors que nous étions quatre lors du dernier mandat. Et je trouve que c'est regrettable, mais c'est tout à fait normal parce que ne peuvent prétendre à être élus que les personnes qui font partie des disciplines affinitaires ou sportives ou associatives. Et si les femmes ne sont pas présidentes, elles ne peuvent pas postuler. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Donc, il faut vraiment que les femmes, on se batte pour effectivement rentrer là-dedans, dans ce domaine et prendre des responsabilités. Et je le vois sous ma casquette de présidente du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. On nous demande là aussi la parité au niveau pour recevoir des distinctions honorifiques de l'État que sont la médaille de la jeunesse et sports. Et on a du mal parce que les femmes, il n'y a pas une pérennité là-dedans. Il faut que les femmes soient non seulement prennent des responsabilités, mais qu'elles soient toujours actives dans leur poste. Et ça, là aussi, on se rend compte que pour des médailles de bronze qui a une certaine durée, ok, mais après, quand il faut accéder dans la durée, dans la pérennisation du poste, là, on a du mal, effectivement, à avoir à les récompenser à ce sujet.
Alors concrètement, qu'est-ce que ce projet, le sport au féminin?
J'ai pas trop d'éléments pour pouvoir répondre là-dessus. On essaie effectivement de s'associer à des manifestations et développer et être présent. Mais donc, c'est quand même difficile en Lozère.
Monsieur Poirson, est-ce que l'État, est-ce que la DDSSPP est partie prenante pour cette question du sport et de l'égalité hommes-femmes?
Alors bien sûr, puisque le sport et l'éducation populaire font partie des compétences de la DDSSPP. Et d'ailleurs, le GDOS est l'un aussi de nos partenaires avec lequel nous travaillons très étroitement. Et donc, on s'assurera nous aussi au niveau des clubs que la parité, la mixité soient des valeurs qui soient portée par ces clubs. Au-delà, même dans les contrôles, nous nous intéresserons au niveau de la gouvernance des clubs à ce que ces valeurs soient non seulement portées mais respectées et intégrées dans la gouvernance des clubs, tout comme on s'intéressera aussi à la prévention de dérives sectaires. J'allais dire, ça fait partie de l'ensemble des valeurs portées par le mouvement du sport et le mouvement des mouvements de jeunesse que l'on souhaite mettre en avant. Donc parité, mixité.
Perline, au niveau du lycée, cette répartition dans le sport, filles, garçons, comment ça se passe?
Alors, au niveau des... Donc les professeurs, ils font aucune discrimination, bien sûr. Mais par exemple, si on fait des groupes de niveau, on remarque que c'est les garçons qui sont dans les groupes qui sont forts et les filles qui sont moins fortes. Donc voilà. Donc c'est peut-être au niveau donc physiologique, bien sûr, mais il y a aussi, je pense, une part culturelle, je suppose, parce que ça paraît pas normal qu'il y ait presque aucune fille qui soit forte, par exemple, surtout dans les sports collectifs. Voilà. Bon, après, bien sûr, il y a pas que ça, parce qu'au lycée, je sais qu'il y a une équipe de handball qui est féminine et qui est championne de France depuis 3-4 ans, je sais plus. Donc voilà, c'est pas que comme ça, mais on peut quand même remarquer ça.
C'est terrible de faire des groupes de niveau en mélangeant hommes-filles, garçons-filles. Et... Ouais. On va terminer, avant de passer à cette journée du 25 mars, avec... 25 novembre, pardon. Oui, non, en mars, c'est autre chose.
8 mars,
c'est oui, c'est le 8 mars. Oui, ben, j'espère bien. On va parler de l'éducation, notamment des filières universitaires qui restent encore à l'heure actuelle très sexuées. Alors... On en parlait un peu tout à l'heure, les femmes sont surtout présentes dans les filières lettres et sciences humaines à 70%, les formations paramédicales et sociales à 85%, et pour les hommes, donc en STAPS, en sport, il y a 71% d'hommes, 72% d'hommes pour les sciences fondamentales et applications, et pour les formations d'ingénieurs et du numérique, 72% d'hommes et 85% dans le secteur uniquement du numérique. Alors c'est Sophie, Valérie, Monsieur Poisson, ceux qui veulent... réagir à ça, c'est des chiffres quand même qui sont terribles. C'est des chiffres du secrétariat d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, édition 2018. On est encore vraiment sclérosé au niveau universitaire.
Oui, mais en fait, on retrouve la même représentation que l'on a dans le sport. Alors que, par exemple, dans le sport, ben, on sait bien que ce sont souvent les mamans qui accompagnent les enfants, qui gèrent souvent l'intendance sur des déplacements, sur des épreuves. Donc, en fait, les femmes sont investies, mais elles ne sont pas visibles. Et on le retrouve dans tous les secteurs d'activité et dans l'enseignement. Ben, on est sur cette représentation en fonction de la sphère dite privée, dite publique. Et c'est d'autant plus dommageable quand on prend les chiffres de la Lozère. Nous avons des résultats scolaires, les filles ont des résultats scolaires exceptionnels sur ce département, jusqu'au bac. Et après, quand on regarde où elles partent, bah, quelque part, elles s'auto-censurent en intégrant dès le départ qu'un jour elles seront maman et qu'elles auront une famille à gérer. Et donc, en fait, elles vont très peu vers des matières scientifiques qui conduisent quelque part à des postes, en tout cas plus de responsabilité ou en tout cas plus rémunérateurs. Et elles vont aller vers des filières qui sont plus proches de la sphère privée. Et c'est vraiment dommage, alors qu'elles ont des compétences et souvent des résultats meilleurs.
Valérie, sur cette même question.
Oui, il y a effectivement l'autocensure et puis il y a des expertises qui montrent que les filles et les garçons ne sont pas sollicités de la même façon en classe. Les garçons vont être plus sollicités sur les mathématiques et les filles sur des filières, sur le français. Et encore lors du Carrefour départemental de l'orientation, donc la semaine passée, j'ai échangé avec Monsieur Clément, qui est directeur des services de l'éducation nationale, et lui, il proposait en fait aux enseignants, alors je ne saurais pas vous dire à quel niveau, que quand il y avait des épreuves de français et de mathématiques, que les maths ne passent pas avant le français. Tout ça pour permettre en fait à ce que les filles ne se désarçonnent pas devant le devoir de maths, parce qu'on leur dit tellement qu'en fait elles sont moins bonnes en maths que les garçons, et que si elles font une épreuve de français, elles vont être en confiance, et donc derrière l'épreuve de maths sera peut-être plus facile pour elles. Donc on en est là aujourd'hui à dire les filles sont tellement pas bonnes en maths, et voilà, et donc on a différents scientifiques qui ont bien prouvé que le cerveau des femmes n'était pas plus différent que celui des hommes. Je crois que c'est Madame Vidal qui est, je ne sais plus son prénom, qui est scientifique sur la région Occitanie et qui fait partie de l'exposition Infinité Plurielle. Mais voilà, donc il faut s'interroger sur pourquoi on en est là aujourd'hui à devoir dire il faut peut-être aménager les examens pour que les filles ne soient pas en difficulté sur des représentations qui ne sont pas justifiées.
Là, il faut intervenir. À chaque fois, vous dites aménager les examens, il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas se faire tout seul. Tout comme Sophie, est-ce qu'il faut légiférer justement pour qu'il y ait plus de femmes au niveau des sièges, au niveau de la politique ? Est-ce que légiférer,
c'est déjà fait. Moi, je pense, que les choses évoluent, parce que justement, il y a eu un certain nombre de lois. Enfin, quand on prend la question des présidents de département, c'est vrai qu'en 2015, on était 10. Puis après, il y a eu les élections sénatoriales qui ont conduit à ce qu'on reste plus que 8, tout en ayant la moitié, en fait, de femmes au sein des assemblées. Donc, mais petit à petit, ça évolue. Mais après, je ne crois pas que la réponse soit toujours dans la loi. C'est plutôt dans la mise en œuvre et la prise de conscience. Après, chacun, forcément, on véhicule et on est porteur de stéréotypes, sans même s'en rendre compte, enfin, tous autour de la table. Donc, ça doit passer, en tout cas sur la question de l'enseignement, puisque c'était le champ que vous évoquiez, je pense que ça doit passer par la formation des maîtres, des enseignants, et après, avec une méthodologie, notamment sur la manière dont on s'adresse aux filles et aux garçons. Donc, on sait bien que c'est pas la même, hein. Il y a eu tout le travail sur les abécédaires de l'égalité, même si ça a été remis en cause au niveau national et que ça a été beaucoup critiqué, mais ça a quand même permis de mettre en avant un certain nombre de carences, et je pense qu'à partir de là, il y a moyen de retravailler autrement.
Monsieur Poisson, donc on va évoquer avec vous la journée du 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Concrètement, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est fait ?
Alors c'est une journée mondiale tout d'abord, c'est une journée qui a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies. Il faut savoir que les violences faites aux femmes, c'est un fléau planétaire. Une femme sur trois connaîtra dans sa vie des violences dans le monde, et la France bien sûr n'est pas épargnée. Le milieu rural, comme tous les autres milieux, et quelles que soient d'ailleurs les classes sociales, n'est pas épargné. Et bien sûr, c'est donc un sujet tout à fait prégnant en Lozère. Un sujet qui conduit à des conséquences à la fois sanitaires très lourdes, psychologiques lourdes, économiques bien sûr et sociétales. On parlait, et là je souhaiterais faire le lien avec l'égalité. L'égalité, c'est aussi l'égalité économique, et on voit bien que les violences, par leurs conséquences durables qu'elles peuvent avoir à la fois sur les enfants mais sur les femmes elles-mêmes, ont un impact, outre, j'allais dire, l'impact sanitaire, un impact en termes même d'égalité économique. Donc cette journée, c'est une journée de sensibilisation où, s'agissant de la Lozère, bien plusieurs manifestations sont organisées, et notamment au contact des jeunes. D'ailleurs, votre émission fait partie aussi de cet exercice de sensibilisation et de communication de nos concitoyens sur cette question des violences faites aux femmes.
Sophie, sur cette journée terrible du 25 novembre.
Eh bien, je pense que Monsieur Poisson a tout dit. Je pense que sur le département, à la fois l'État et le CIDF ont mis en place des dispositifs qui permettent d'accompagner les femmes victimes de violences, aussi bien sur l'accompagnement juridique, psychologique, l'accueil de jour, sur du logement. Voilà, il y a un certain nombre de réponses qui existent. En Lozère, on n'est pas épargné, mais il n'y a pas forcément plus. Ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, quand vous avez abordé la question des chiffres, c'est que finalement, puis on l'a bien vu là récemment avec les réseaux sociaux aussi, je crois que la parole se libère, mais qu'on n'a pas, on connaît mieux le phénomène, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est en augmentation. Voilà. Mais pour autant, il ne faut pas minimiser les chiffres par rapport à la fois aux violences qui sont vécues au quotidien ou aux décès qui sont aussi bien là, malheureusement.
Voilà, Monsieur Porson, vous l'avez bien évoqué, hein, c'est lié finalement cette question d'égalité homme-femme et cette question des violences faites aux femmes. Valérie, si on travaille vraiment sur, ou Christine, sur cette égalité, qu'on arrive à faire prendre conscience dès le plus jeune âge de cette égalité, ben, logiquement, ça va en découler que ces violences vont diminuer. Enfin, on l'espère du moins.
Bien sûr, on l'espère. Maintenant, on est devant nous les chiffres en Lozère. On va parler de la Lozère parce que c'est notre département. On s'aperçoit qu'effectivement, ça reste quelque chose comme le disait Sophie Pantel, c'est dans les comportements, bien sûr, parce que les lois sont là. Il faut les appliquer, bien sûr, elles ne le sont pas forcément. Mais qu'effectivement, il faut qu'on déconstruise un petit peu tous ces stéréotypes et que chacun se responsabilise aussi au niveau de cette égalité, que chacun, par exemple, dans la sphère familiale, dans le travail, que chacun réalise que homme-femme, on est pareil, que les capacités intellectuelles, elles sont les mêmes, et que notre humanité, elle s'est construite avec les hommes, avec les femmes, et que je me dis ça relève simplement du droit, hein, du droit de l'homme, du respect à la personne, voilà. Donc voilà ce que je peux dire, c'est que c'est en parler encore, en parler toujours et être présent pour les personnes à qui on a refusé ce droit-là, en sachant bien que quand on refuse le droit, c'est une réflexion que je fais. Quand on refuse le droit à quelqu'un, c'est aussi peut-être une façon d'avoir un pouvoir. Voilà.
On va peut-être faire un dernier tour de table pour clôturer cette émission. Si vous voulez conclure cette émission-là, peut-être donner la parole à Perline. Déjà, merci d'être venue pour cette émission. C'est intéressant d'avoir ce témoignage de lycéenne.
Non, bah, pas de souci. Donc pour conclure par rapport à tout ça, je pense qu'il y avait quand même des inégalités par rapport au lycée, les professeurs, ils font en sorte de pas nous catégoriser, donc on est quand même on est traité équitablement, et même s'il y a des inégalités, je pense que quand même c'est en train d'évoluer vers moins d'inégalités. Et au niveau, déjà on est tous scolarisés, on a tous accès aux mêmes filières, même si bon dans les faits c'est pas forcément respecté, mais je pense que quand même ça évoluera vers plus d'égalité.
Madame Domergue.
Moi j'ai été ravie d'être présente là aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre d'intervention. Et là ce que j'étais en train de réfléchir, c'est qu'on va mettre en place effectivement au niveau du GDOS. Une recherche pour savoir les violences qu'il peut y avoir dans le sport au niveau, des actions, des violences dans le sport, et plus particulièrement entre profs et élèves. Donc on est en train de travailler là-dessus et on va mettre en place effectivement un dossier et des recherches dans ce domaine. Voilà, donc... on va tout faire pour que les féminines s'investissent encore plus au niveau aussi des responsabilités.
Christine a un peu conclu tout à l'heure. Valérie, tu veux conclure
Oui, peut-être plusieurs choses. Dire que je pense que les CIDFF ont encore vocation à exister en Lozère, pour le CIDF Lozère, et puis sur la région Occitanie. Pour rebondir sur les propos de Liliane Domergue, je pense qu'on a aussi à œuvrer sur de la sensibilisation et de la formation. Nous, par exemple, CIDFF Lozère, nous sommes organisme prestataire de formation. Donc, pour intervenir peut-être auprès des bénévoles des instances sportives sur ces questions d'égalité femmes-hommes, comme on intervient auprès des jeunes. Donc ça, je pense qu'on a un champ ouvert peut-être. Et puis
une impression personnelle. Je m'interroge. J'ai entendu le témoignage d'une association qui s'est montée sur la région nantaise de jeunes femmes. L'une avait été injuriée dans le train. Et donc, monsieur l'avait empêché de circuler et l'avait menacé de viol. Donc, avec sa sœur jumelle, elle a monté une association pour qui est un peu un système de covoiturage, un système de carapate, où quand une femme sort dans la ville, quand elle va dans un bar, au cinéma, etc., elles ont généré une application pour trouver une autre personne qui la raccompagne, en fait. Et moi, je me demande si l'inégalité, en fait, et c'est ce à quoi peuvent être soumises les femmes quand elles circulent dans la rue, n'est pas une atteinte, en fait, à la liberté d'aller et venir. Voilà, ça c'est ma question.
Monsieur Bourson.
Souvent, on a tendance à se restreindre sur le droit des femmes et l'égalité homme-femme au niveau de la politique que porte l'État, effectivement, au travail qui est fait par le secrétariat d'État et que nous mettons en œuvre. Mais nous sommes, en ce qui nous concerne, et ici en Lozère, en département, une direction interministérielle. Et croyez-le, dans tous les domaines où nous intervenons, le droit des femmes et l'égalité homme-femme et la prévention de la violence faite aux femmes est un élément que nous prenons en compte, qu'il s'agisse des politiques dans le domaine du sport, des politiques que nous mettons en œuvre dans le domaine de la vie associative, de l'éducation populaire, lorsque nous travaillons sur la protection des personnes les plus vulnérables. Là aussi, nous prenons en compte cette dimension du droit des femmes, qu'il s'agisse du logement ou de l'accompagnement social. Et puis, ce sont des politiques où, là aussi, il ne faut pas toujours ne regarder que l'action immédiate et visible de l'État, car l'État travaille avec un très grand nombre de partenaires. Ce sont vraiment des politiques publiques partenariales. Et ça, je crois que je souhaite insister là-dessus. Et puis enfin, j'allais dire, au niveau de notre structure, eh bien, c'est une structure qui est à prédominance féminine, comme quoi le contraire peut se produire. On disait, Madame Pantel disait, dans le domaine de la fonction publique, cet équilibre est assuré, mais parfois il est d'autant mieux assuré qu'on peut évoluer dans un environnement très féminin, et je puis vous dire que c'est un environnement qui permet un travail à la fois serein et très efficace, et nous en félicitons tous les jours. Donc on ne peut encourager que nos collègues ou toute autre structure publique ou privée à faire de même.
Sophie Pantel.
Alors, il me revient de terminer. Moi, j'avais peut-être envie d'abord de passer un message positif en disant que même si souvent on doit légitimer notre place ou on doit toujours prouver plus, moi je pense qu'il y a quand même une évolution qui reste positive et en tout cas je pense qu'il faut s'autoriser à s'investir dans tous les champs, hein, que ce soit évidemment les associations, les syndicats, la vie politique. Enfin, moi j'invite le plus de classes possible à venir aussi voir des séances au sein du département. Après, j'avais envie de dire, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les textes, l'égalité réelle est là, y compris pour l'accès à tous les métiers, hein, à part dans les sous-marins où ça reste encore interdit aux femmes, mais sinon tous les métiers sont ouverts. Donc on voit bien que c'est vraiment dans le changement de pratique et dans l'éducation et dans la prise en compte des stéréotypes qu'on peut faire évoluer. Alors il reste du travail, mais là aussi je veux rester positive. Et puis aussi dire que quand on fait progresser la cause des femmes, on fait progresser aussi la cause des hommes, parce que souvent on oppose les deux. Et je prends qu'un exemple, quand on a modifié la réglementation pour les sacs de ciment, par exemple, pour que les femmes puissent accéder à un certain nombre de métiers dans le domaine du bâtiment, finalement, on a aussi fait améliorer les conditions de travail des hommes, et ne serait-ce qu'au niveau de leur santé. Et puis, la dernière chose, c'est que je pense que dans la vie, il faut arriver à parler avec un même vocabulaire. Trop souvent, on nous dit « Ah, mais celle-là, elle est féministe. Moi, je suis pas féministe. » etc. Et je crois que derrière, c'est simplement un manque de connaissance de l'histoire, de ce que veut dire chaque mot. Et je le redis, quand on nomme pas les choses, elles n'existent pas. Et moi, il n'y a rien qui m'horripile autant que d'avoir des directrices, par exemple. Enfin, je peux le dire parce qu'on s'était attrapé avec la précédente rectrice qui refusait qu'on l'appelle Madame la rectrice. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Donc, je n'ai eu de cesse de lui écrire Madame la rectrice. Et elle, en fait, bon, du coup, ça nous a posé des problèmes, hein, parce que, évidemment, elle voulait Madame le recteur. Voilà. Mais je crois que chacun, à la place où on est, on a notre petite pierre à apporter à l'édifice pour faire évoluer et changer les comportements.
Merci d'avoir participé à ce plateau radio autour de cette table. Donc Sophie Pantel, la présidente du conseil départemental de la Lozère, Jean-Michel Poirson pour la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, Valérie Lucas et Christine Chapelle pour le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, Liliane Domergue, vice-présidente du comité départemental olympique et sportif, et enfin Perline Lafou d'Audet, qui a participé également en tant que lycéenne à ce plateau. Merci aux journalistes Ludovic pour 48FM, Nathalie pour Radio Margeride et merci à RCF Lozère. Ce plateau radio qui était organisé par l'association, par l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, l'ARA, avec le soutien de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité d'Occitanie. Merci à tous et à bientôt.
Merci, au revoir.